Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce best-of de la blogosphère hein, qui est la tribune dédiée aux blogueurs africains et c'est une rétrospective donc des meilleurs blogueurs de l'année. L'actualité qui aura marqué les esprits l'année qui s'achève est bien l'élection surprise hein, du magnat de l'immobilier américain, le richissime homme d'affaires Donald Trump, qui a donc été élu 45e président des États-Unis d'Amérique à l'issue de l'élection présidentielle du 8 novembre dernier. Déjouant ainsi tous les pronostics, Donald Trump a réussi à coiffer au poteau celle qui était pourtant donnée gagnante par tous les institut de sondage, l'ex-First Lady Hillary Clinton. Comment l'élection de Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, comment l'élection de Donald Trump a donc été perçue sur le continent africain? Sédic Abba est journaliste et analyste politique nigérien.
Moi, comme beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes, beaucoup d'instituts de sondage, n'avions pas anticipé cette victoire, n'avions pas vu tout l'élan de colère, toute cette Amérique blanche, appelée par l'absence de perspective, appelée par la désindustrialisation, appelée par le déclassement, comme on dit, nous n'avions pas anticipé cela et on s'est réveillé avec cette surprise. C'est plutôt un marché d'illusions. Lorsque, comme cette Amérique qui s'est désindustrialisée, l'Iowa, la Pennsylvanie, où il y a des gens qui ont été victimes, qui pensent que la mondialisation leur a tout ôté. Il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, vous pouvez avoir un bon job, un travail bien rémunéré, sans que vous ayez des diplômes. Ce n'est plus le cas. Et Donald Trump a expliqué à ses compatriotes que cela est une conséquence de la mondialisation, que lui allait replier l'Amérique sur elle-même, qu'il allait réindustrialiser l'Amérique. Il y a justement des pays qui se disent que jusqu'ici nous avons été embêtés par les États-Unis sur le respect des droits de l'homme, les questions de respect de la Constitution, puisque ça a été ouvertement affirmé par Obama, puisque ça a été affirmé par l'administration américaine. Il y a même eu dans le cadre de la RDC des sanctions contre deux proches du président Kabila. Il y a la pression sur Bourdieu. Ces gens-là se disent que si Trump s'installe au pouvoir, il ne va plus considérer comme une priorité la démocratie en Afrique et que nous aurons les mains libres pour agir, nous aurons les mains libres pour continuer à torturer, violer les droits de l'homme. C'est une erreur d'appréciation.
La crise politique qui secoue le Burundi depuis avril 2015 a également largement fait la une de l'actualité africaine en cette année 2016. L'une des conséquences directes de cette crise politique et sécuritaire est la fermeture des médias indépendants, voire même la disparition de certains confrères, à l'instar de Jean Bigirimana, journaliste au groupe de presse indépendant. Pendant Iwachu, Jean Bigirimana est porté disparu depuis le 22 juin dernier. Une situation qui inquiète profondément RSF, Reporters sans frontières. Cléa Khan-Sriber en est la responsable du Bureau Afrique.
La situation, en tout cas, évidemment, ne s'améliore pas. Depuis le début de la crise et depuis avril 2015 et mai 2015 et la fermeture des médias. Et là, il est vrai que récemment, les situations d'arrestation arbitraire de journalistes ont été plus mises en avant. Mais bon, elles ont toujours quand même eu lieu, de harcèlement, d'arrestation temporaire à des fins d'intimidation, etc. Mais là, ce qui est évidemment extrêmement préoccupant, c'est la disparition depuis maintenant plus d'un mois du journaliste Jean Bigirimana. Non, il y a une équipe d'Iwachu qui était donc le média pour lequel, auquel Jean collaborait, un des médias auxquels Jean collaborait, qui s'est rendu spontanément sur place. sur place, là où Jean avait été vu pour la dernière fois, et a commencé à mener des recherches. Au bout de quelques jours de recherche, ils ont été rejoints par les autorités locales, les forces de sécurité locales qui se sont joints aussi aux recherches. Mais à ce jour, non, elles n'ont pas abouti. Et puis surtout, elles ont, à ma connaissance, cessé. On a été en contact avec, au début, avec le président du Conseil national de la communication qui a dit qu'il se saisissait du cas. Depuis, il est injoignable. Et on a interpellé les autorités burundaises pour qu'elles se mobilisent. Mais il est très difficile d'identifier qui exactement, les responsabilités sont rejetées. Et donc, on n'a pas d'interlocuteur qui, à ce jour, s'est engagé à enquêter sur la situation.
Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les antennes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, émettant depuis nos studios de Bonn, suite de notre rétrospective, ou plutôt du best-of des blogueurs qui se sont exprimés dans Afrique 7 jours. Et parmi eux, Florent Guimbis, blogueur camerounais que les auditeurs de la Deutsche Welle doivent bien connaître puisqu'il a été lauréat de BOPS, qui est un concours de la Deutsche Welle organisé à l'intention donc des blogueurs africains. Le 25 novembre dernier, Florent Guimbis a donné son point de vue sur les violents heurts qui ont opposé de manifestants aux forces de l'ordre à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun. Des simples manifestations qui ont pris des allures de revendications plus profondes. Les populations anglophones de cette partie du Cameroun estiment être frustrées. C'est pourquoi certaines d'entre elles exigent le fédéralisme alors que d'autres parlent même carrément de séparatisme. Voici l'analyse sur le sujet de Florent Guimbis.
Aussi étrange que cela puisse paraître, la partie francophone du pays, si on peut appeler ça ainsi, même si je n'aime pas beaucoup le terme, a un regard complètement biaisé de cette histoire. Ça nous a présenté plus comme une revendication indépendantiste de cette région du Cameroun qui, il faut le dire, depuis plusieurs années déjà, abrite un mouvement sécessionniste qui affirme vouloir retourner à une indépendance de cette partie du Cameroun qui, historiquement, a été rattachée via un référendum au Cameroun tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, après, les grévistes nous disent que c'est juste une grève pour appeler à un respect de la Constitution en ce qui concerne le respect de l'égalité de tous, de l'égalité des chances et surtout d'éviter la discrimination dont les anglophones estiment être victimes dans le Cameroun. C'est la politisation en réalité d'un problème social. C'est-à-dire qu'on a 20% d'anglophones dans un pays qui compte 22 millions d'habitants environ et on a depuis des années ce qu'on appelle un bilinguisme de façade. Un bilinguisme de façade qui a entraîné socialement et même politiquement une mise à l'index des anglophones qui sont plus considérés comme une minorité qui vient se greffer à la majorité dans le Cameroun que comme des citoyens faisant partie à part entière du Cameroun. Et c'est pour ça que, je vous le disais, le problème est tellement sinueux qu'il est difficile, même pour les analystes les plus clairs aujourd'hui, de dire exactement qu'est-ce qui fait problème dans la question anglophone. Le gouvernement botte en touche en disant « l'égalité des chances est effective pour tous, il n'y a pas de marginalisation, etc. » Mais les anglophones pratiquent une espèce de repli identitaire qui n'est que la corrélation du fait qu'ils se sentent marginalisés. Marginalisation, dans les faits, est-ce qu'elle existe? Une chose est sûre, c'est que beaucoup de textes sont mal faits. La question du bilinguisme est un problème qu'on botte en touche depuis des années et que personne ne veut résoudre pour de vrai. Et voilà, on aboutit à des c'est-à-dire que des corporations commencent à dire « ça ne va pas » et on se met en grève. Le problème est un problème de développement, c'est un problème sociétal. Et la partie anglophone, comme on aime bien l'appeler, n'est pas la seule qui est dans ce cas. Beaucoup de Camerounais sont un peu outrés par ces revendications qui, ils estiment, touchent à l'essence même de la nation camerounaise. Mais dans la réalité des faits, la zone anglophone n'est pas la seule zone qui souffre de tels remous. C'est-à-dire que la plupart des gens considèrent que l'État est centralisé entre deux pôles qui sont Yaoundé et Douala et que l'intérêt du pays, en réalité, existe.
vide en termes de développement qui commence à se vider même en termes de population. Or, la région du nord-ouest, sud-ouest, etc., garde encore une espèce de ciment social qui est la langue en réalité pour que ces gens parlent. Et eux, c'est sur la base de cette communauté de langue qu'ils veulent aussi opérer la communauté de revendication. Et ce n'est que ça, mais le problème en réalité est sociétal. Il n'y a pas de route, d'électricité, c'est la croix et la bannière. Et maintenant, des corporations souffrent de ce que, voilà, l'intégration du bilinguisme dans leurs us et qu'au quotidien, ils n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et ils estiment être marginalisés par rapport à une francophonie prépondérante. C'est aussi simple que ça.
Il vous souviendra qu'une équipe de la Deutsche Welle a animé mi-novembre un débat public sur l'immigration clandestine. C'était à Bamako, la capitale du Mali. Et Dirk Kuip a profité de son séjour dans la capitale malienne pour tendre son micro à Boubacar Sangaré, un blogueur malien. Et vous allez l'entendre, il plaide pour que ses compatriotes puissent rester sur place au Mali afin de contribuer à la construction de leur pays. Boubacar Sangaré.
On est dans un pays où ceux qui détiennent les leviers du pouvoir sont les premiers à s'en mettre plein les poches, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un pays où la corruption, le népotisme, le favoritisme constituent des facteurs qui mettent du bâton dans les roues des jeunes. Par exemple, pour entreprendre, vous avez parlé du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et à la création de ce ministère, la réponse 2002. Il y a aussi d'autres structures comme l'ANP ou l'APEJ qui ont été créées pour la même cause, dont l'efficacité aujourd'hui est remise en cause. Par exemple, avec ces structures-là, les jeunes sont confrontés au même problème de corruption, de népotisme et de favoritisme pour avoir du financement pour des projets qu'ils ont montés. Aujourd'hui, le problème, c'est la formation. On a une jeunesse qui attend, qui ne sait pas ce qu'il attend, qui s'assoit autour du thé tous les jours pour attendre que le bon Dieu lui envoie l'ange Gabriel. C'est une jeunesse qui ne sait que jouer au football, faire du rap ou pousser le poids pour devenir un loubard. Il faut rompre avec ça, sinon on va donner l'impression d'être un peuple qui a renoncé à sa dignité. Aujourd'hui, la solution, ce n'est pas partir. Ce n'est pas partir. La solution, c'est la désobéissance, c'est révolter, c'est mobiliser pour pousser ceux qui tiennent le levier du pouvoir, pour les pousser à travailler, à faire ce qui peut nous assurer des conditions de vie dignes de ce nom. Avant, en Europe ou en Amérique, c'était la terre, le bois, les arbres et l'eau. Ils ont créé, ils ont inventé des choses, ils ont bâti leur pays. Nous, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire la même chose? Rien. C'est à nous de construire nos pays. Si nous ne les faisons pas, personne ne va les faire à notre place. Moi, je ne pense pas vivre ailleurs que le Mali. La solution, ce n'est pas le départ. Le départ, c'est toujours un navet d'échec. Parce qu'on a le sentiment que l'histoire nous a fait un sort injuste. Donc, il faut se battre contre ce sort-là.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton...
Terminons ce best-of par cette initiative dénommée Dandal Koura. Il s'agit là d'une radio créée spécialement pour lutter contre Boko Haram au Nigeria et qui permet donc au nord de ce pays de sortir peu à peu de son isolement médiatique et informationnel, notamment les États du Borno, de l'Adamawa et de Yobe, des États qui étaient coupés du reste du monde à cause de la secte terroriste Boko Haram. David Smith est le promoteur de la radio Dandal Koura.
Dandal Koura, radio internationale, c'est une radio qui émet depuis des studios à Maiduguri dans l'état de Borno, dans le nord-est Nigeria, et en langue Kanuri et Hausa. Et en langue kanuri, Dandalkura veut dire le grand lieu de rencontre. C'est une radio qui touche toute la région du bassin du lac Tchad. Ça veut dire le nord-est du Nigeria, le sud-est du Niger, le nord du Cameroun et le nord-ouest du Tchad. Bref, toutes les régions où la langue kanuri est parlée et toutes les régions qui ont été frappées durement, malheureusement, par Boko Haram. On émet sur ondes courtes, comme vous à Deutsche Welle, parce qu'on sait que dans la région du Sahel, dans la région du lac Tchad, les gens ont une habitude, une tradition à écouter ondes courtes. Et ce qui est vraiment formidable avec ce projet, cette radio qui s'appelle Dandalkura Radio Internationale, c'est que c'est la seule et première radio kanuri au monde. On émet principalement en kanuri, mais en hausa aussi. Mais comme vous le savez, avec une radio, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. On peut pas être une radio pour tout le monde, il faut avoir une cible. On a construit un réseau de pigistes, de correspondants un peu partout dans la région. On a des correspondants dans tous les 10 états du nord-est du Nigeria, au Niger, dans les régions qui parlent kanuri, comme à Zinder et à Diffa, à N'Djamena, au Tchad, où le Force Mixte Multinationale opère et bientôt au Cameroun aussi. Et c'est eux qui envoient leurs papiers tous les jours à nos studios ici à Maiduguri et on réalise une émission qui dure 6 heures par jour.
Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi.
Voilà, à l'instant, vous veniez d'écouter le promoteur de la radio Dandalkura et il s'appelle David Smith. Et c'est avec cette actualité au Nigeria que s'achève ce best-of de Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Je ne vais pas vous quitter sans vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2017. Merci aussi à Béatrice Bitumi pour sa contribution qui nous a aidés donc au cours de cette année dans la réalisation de ce magazine. C'était Eric Topona et je vous quitte sur cette pensée d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique. Et je cite « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps ». Fin de citation. À l'année prochaine.
نبغيك عايشة ونموتاليك هادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة عايشة هيكو